Et je me suis aperçu, je me suis rendu compte de l'énorme souffrance qu'il y a, non seulement chez les gens non convertis, mais chez les chrétiens aussi. Partout où on se déplace, on a fait le tour de France cette année, du sud au nord, en Bretagne et tout. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir tant de malades dans les églises, et nous-mêmes aussi, on peut être aussi atteint par la maladie. Alors qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et ça m'a poussé à écrire un livre. Le titre, c'est « Les principaux obstacles à la guérison ». Parce que c'est vrai que si j'ai le bonheur de voir énormément de gens guéris, délivrés de toutes sortes de maladies et des choses extraordinaires, et je vois aussi des chrétiens et des personnes non guéries. Et ça me pousse. Je dis « Seigneur, Seigneur, explique-moi, montre-moi, dis-moi ». Alors, c'est vrai que y a une part de mystère. Il n'y a pas du tout la réponse à tout. Je ne prétends pas d'avoir toutes les réponses. Comme je disais hier, je ne vais pas vous dire vous avez les 5 clés et puis vous allez être guéri. Non, ça, c'est pas ma manière de fonctionner. Mais le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses qui peuvent être des obstacles majeurs à notre guérison dans nos vies. Alors, guérison, c'est pas simplement un mal d'épaule, un mal de pied, une sciatique, quoi que ce soit. C'est dans son ensemble. On peut être malade dans son âme. J'ai mal à mon âme, j'ai mal à mon pays. Vous savez, il y en a qui le disent, on peut le dire aujourd'hui. J'ai mal à mon pays, j'ai mal à mon âme, j'ai mal dans mes pensées, j'ai mal. Comment je fais? Et le message de Jésus, je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te délivrer, pour te guérir. Ça va? Alors, il y a une pensée qui est venue. Est-ce que vous êtes concerté avec Mathieu ce matin? Non. Alors, il y a quelque chose qui est puissant. C'est que j'ai ressenti aussi hier soir, c'est le mot incrédulité. Alors, je n'ai aucune leçon à donner parce que moi, je suis pas un adepte, mais dans tous les apôtres, je pense que je suis Saint Thomas très souvent. J'ai la peine à voir la gloire de Dieu, à croire que Dieu peut faire des miracles. Et pourtant, je le vois agir. Alors, face à ce genre de problématique, il y a deux choses. Soit je dis, Seigneur, te prie, pose ta main sur moi, chasse l'incrédulité de ma vie, je peux le faire, le faire. Comme je peux dire, je suis malade, Seigneur, touche-moi, étends ta main sur moi. Je peux le faire aussi. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Si ça marche, faites-le. Moi, je ne veux plus perdre mon temps. D'accord? Donc, je regarde les choses les plus efficaces. Donc, faites-le. Mais il y a une autre manière. Et ça, c'est pas simplement la guérison, mais ça concerne tous les domaines de notre vie. Face à une difficulté, soit j'accuse le coup, parce qu'on est bien obligé de constater une difficulté, un résultat médical qui n'est pas bon, dans les finances ça ne marche pas, dans le couple, dans la famille, etc. Je peux me lamenter et je peux demander à Dieu d'agir. Ça, c'est la meilleure chose. Ou alors je regarde comment faisait Dieu, ou plutôt Jésus dans les évangiles. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, en aucun moment, Dieu s'adressait à son Père pour intervenir. Jamais. Et ça, c'est une base, parce que j'organise aussi des formations de guérison. La base de la base, quand on prie pour un malade, on ne s'adresse pas à Dieu. On va me dire, qu'est-ce qu'il dit, David? Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà toutes choses. D'accord? Par contre, on s'adresse à la maladie, on s'adresse au stress, on s'adresse à la peur, on s'adresse à la culpabilité. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ça va? Faites-le! Non mais sérieux, faites-le! Faites-le. Vous avez une douleur, vous avez un problème particulier, demandez pas à Dieu d'intervenir. Franchement, il le sait déjà. Il sait déjà. Intervenez-vous parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle. Si vous voulez que votre foi grandisse, il faut la faire marcher. Et il faut prendre des risques, il faut oser. Moi, partout où je suis invité, comme hier soir, je ne sais jamais ce qui va se passer. Jamais. On va le faire tout à l'heure, là. Il va y avoir une partie de mise en pratique. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais je sais que Dieu va agir. Ça, c'est une certitude. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, on va tous se lever. Et vous allez visualiser le problème par lequel vous passez aujourd'hui. Par exemple, si vous pensez que il y a une grosse incrédulité, et moi, je me mets dedans, je ne donne aucune leçon. Incrédulité, un doute, une peur, du stress, burn-out, la douleur, la maladie, tout ce que vous voulez. Moi, je vais simplement vous aider à déclarer ces choses-là et à chasser ces choses-là de votre esprit. Ça va? Alors, quand on fait ces choses-là, ce n'est pas de dire « Oh, peur, pars !» Non, non, non. Peur, tu pars dans le nom de Jésus. Je ne t'autorise pas à rester dans mon esprit. Où est-ce que je veux dire la différence ? Je ne te permets pas ces choses-là. Ça va ? D'accord ? Nous, on a 8 petits-enfants. Et quand je me balade avec le petit de Nicolas, qui a presque 2 ans, on en est gaga. Hein. Mais s'il y a un chien qui vient l'embêter, je ne vais pas dire « Chien, tu pars !» Je dis « Pars, 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 pars !» Et je protège notre petit-fils. C'est tout à fait normal. Et Dieu fait pareil avec nous. Est-ce que ça va ? Ok. Alors, vous allez répéter après moi. Peur. Non, ça ne marche pas. Peur. Incrédulité. Stress. Maladie. Douleur. Burn-out. Dépression. Je vous parle ce matin. Écoutez-moi bien. Vous êtes là. Pas très loin de moi. Je vous sens. Je vous entends. Mais ce matin, je fais le choix de ne plus collaborer avec vous. Alors je vous chasse dans le nom de Jésus. Vous partez maintenant dans le nom de Jésus. Douleur, tu pars. Mal-être, tu pars. Incrédulité, tu pars. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrez les yeux. Je déclare. Je suis enfant de Dieu. Je déclare. Je suis enfant de Dieu. Je déclare que la maladie n'a aucune place dans mon corps. Et j'ai le pouvoir de la chasser. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis béni. Que je suis hautement béni. Parce que mon Père est le Père céleste. Je déclare ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Vous savez, les déclarations, c'est important. Ça peut vraiment nous aider. C'est un instrument pédagogique que moi j'ai appris à utiliser et qui est extrêmement puissant. Quand le doute vient, quand la peur vient, allez-y, allez-y, Franco, allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Déclarez de votre bouche ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. Jésus nous dit, par vos paroles, vous êtes bénis, par vos paroles, vous êtes maudits. C'est-à-dire, on peut s'auto-maudire. Il n'y a pas besoin qu'un sorcier t'envoie des malédictions. Moi, toute ma vie, j'ai souffert de problèmes de dents. Des abcès à répétition. Je ne sais pas s'il y a des dentistes ici, mais enfin voilà, des problèmes. Et c'est très douloureux pour ceux qui ont des abcès. Ça, c'est très douloureux. Et ça a duré des années. Et quand je partais en mission, j'avais toujours... antibiotiques, antidouleurs, tout ce qu'il faut, quoi. Et je savais que la douleur partait au bout de 3 jours, tout ça. Et c'était dur. Une fois, j'étais en mission en Afrique et j'avais mal. Et je priais pour les gens. Il y avait plein de gens qui étaient guéris. Moi, j'avais mal. Et puis, ça partait pas. J'ai beau prier, tout ça, et ça marchait pas. Il y a des moments, je vais vous dire, où la prière ne marche pas. Quand ça marche pas, arrêtez de prier. Franchement, arrêtez de prier. C'est là que ça se passe. Et moi, dans mon cas, ça ne passait pas. On a prié pour moi, et puis aucune amélioration. Et un jour, je discute avec mon ami Bernard, tu connais de l'arbre, qui est dentiste, qui est à la retraite maintenant. Et je discute avec lui, je lui dis, Bernard, mes saletés de dents, elles me jouent des tours. Il me dit, arrête de maudire tes dents. Impressionnant, arrête de maudire tes dents. C'est-à-dire, moi qui donnais des leçons partout où j'allais, moi qui enseignais des gens, eh bien, je maudissais mes dents en disant ça. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas prié pour mes dents. J'ai béni mes dents. Franchement, j'ai béni mes dents. Je ne suis plus allé chez le dentiste pour un problème de j'ai plus. C'était terminé. Alors, j'y vais pour des problèmes, voilà, des secondaires, des tartrages, tout ça. Mais j'ai jamais eu plus d'infection. Et l'année dernière, c'est la première fois que je suis allé en Afrique sans mon petit sachet de médicaments. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut apprendre à se bénir. On apprend à s'auto-bénir. Je me bénis. Je suis enfant de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas n'importe qui. Alors, le thème du message... Alors, est-ce que si ça marche, ça serait génial ? C'est là, non ? Voilà. Le père du message, c'est le Père Céleste. Alors, Pourquoi le Père Céleste ? Parce que ça, c'est un thème qui a bouleversé ma vie. Et je vous encourage vraiment à aller écouter Simon Olley, franchement. Ah ouais, je l'ai dit hier soir, mais c'est un des ministères qui m'a énormément aidé par sa simplicité. Et je m'inspire de lui. Tu peux lui dire, hein, si tu le vois. Parce que il est d'une simplicité par rapport au charisme, par rapport aux paroles de connaissance. Mais c'est quelque chose... Oh là là, qu'est-ce que c'est simple ! Parce que l'Évangile est simple. Donc voilà, je fais aussi la pub. Alors, la question que je pose, qu'on peut se poser, pourquoi devons-nous prier pour les malades ? Comment ça se fait ? Alors, c'est vrai que normalement, on ne devrait pas dire prier pour les malades. Jésus ne nous a pas dit prier pour les malades. Il nous a dit guérissez-les. Mais c'est une question de pédagogie. Parce que déjà, c'est compliqué d'expliquer qu'on est capable, que c'est nous qui guérissons dans le nom de Jésus. Je préfère dire c'est Jésus qui guérit et on prie pour les malades. C'est juste une question de pédagogie. En France, je pense que c'est compliqué hein, de dire ces choses-là. Alors, pourquoi devons-nous prier pour les malades ? Et la question que moi, je peux me poser, qu'on peut se poser de manière différente, pourquoi Dieu ne fait pas le travail tout seul ? Franchement. Hier, on a passé du temps, on a vu quelques guérisons, tout ça. Et moi, je passe beaucoup de temps à prier pour les gens, tout ça, de partout. Mais pourquoi Dieu ne fait pas le boulot tout seul ? Franchement, ça serait mieux fait. Et Dieu pourrait faire la louange tout seul aussi. Hein. Il n'a pas besoin de nous. Et la louange, elle était géniale, franchement, la louange. Mais j'imagine la louange faite par le Seigneur. Je veux dire, ça doit être décuplé, extraordinaire. Donc, pourquoi ? Il aurait pu parler directement, il aurait pu agir directement, et il ne l'a pas fait. Et ça, c'est une question qui me tarabuse, qui me fait poser des questions. Comment ça se fait ? Et en fait, une des réponses que j'ai, parce que au-dessus de tout cela, Dieu se présente comme un père et Jésus comme un fils. Ça, c'est une rhétorique qu'on voit dans toute la parole de Dieu. Dieu se présente comme un père et Jésus comme un fils. Dieu veut que les hommes sachent qu'avant tout, il est un père. Et pour révéler un père, il envoie son fils Jésus. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on lit l'Ancien Testament, par exemple, le psaume 89, lui, il m'invoquera, « Tu es mon père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Toujours cette idée, « Tu es mon père. » Psaume 89, « Lui, il m'invoquera. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. » Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et ce passage merveilleux de Jésus, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, votre Père, hein, vous avez remarqué, il ne dit pas votre Dieu qui est aux cieux, hein, votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Déjà, dans ce verset, on voit bien, il nous donne des bonnes choses. D'accord ? Le bon Dieu. J'aime bien cette expression catholique, le bon Dieu. Déjà, il y a un présupposé, Dieu est bon. Déjà, on part sur de bonnes bases. Hein. Donc, et lorsque les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus leur répond, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. Il y a toujours cette idée de filiation, quoi. Hein. Il n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux, mais notre Père qui est aux cieux. Et c'est cette relation qui change tout. Et je ne sais pas si c'est ce que tu parlais tout à l'heure, Mathieu, mais c'est ça qui a transformé notre vie avec Lucie. Quoi. Et c'est par ce chemin que Dieu veut nous faire passer. Plus nous cultivons ce lien père-enfant, plus nous pourrons révéler l'amour de Dieu ou comprendre l'amour de Dieu. Alors, il y a plein de domaines par lesquels Dieu va se révéler, entre autres la guérison, la délivrance, hein, etc. Mais le plus important, c'est connaître la révélation de qui est le Père. Et pour révéler le Père, il faut des enfants. Et c'est ce rapport que révèlent les évangiles ou les actes des apôtres. Et Dieu nous envoie, pas parce que nous sommes qualifiés, mais parce que nous sommes des enfants. Ça va ?
Amen.
Nous sommes des enfants de Dieu. Alors c'est marrant parce qu'on le dit, oui, on est enfants de Dieu, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a, quoi. Le bonheur qu'on a d'être des enfants de Dieu, quoi. Le bonheur qu'on a. Moi, pendant des années, hein, avec Lucie, notre vie spirituelle, je peux le dire, elle était des fois en yo-yo. Hein. Tu pars le matin, alléluia, le dimanche matin, le lundi matin, et puis au milieu de la semaine, eh bien, tu commences à perdre le moral, les difficultés arrivent, et tu arrives en fin de semaine, tu es vanné, tu n'en peux plus, quoi. Puis au bout d'un moment, tu dis, non, c'est pas ça être enfant de Dieu, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Être enfant de Dieu, c'est être des vainqueurs. On n'est pas des dominés, quoi. Quoi qu'il se passe, on est des vainqueurs, quoi, en toute chose. Et donc, cette révélation qui a bouleversé notre vie, quoi. Dieu nous envoie, pas parce que nous sommes qualifiés, mais parce que nous sommes des enfants. Dieu n'a pas dit, je vais d'abord guérir ou délivrer. Il a dit, j'envoie mon fils. Et il y a une idée de filiation dans l'évangélisation. Si on a compris cela, alors tout le reste viendra normalement. Il n'y a pas de culpabilité de dire, t'as évangélisé, combien de personnes t'as évangélisé cette année? Combien? Tu te rends compte, t'en as évangélisé 150, mais c'est pas assez, Antoine, c'est pas assez. Non, mais toi, il n'y a pas cette idée de culpabilité. Dieu est un père parfait. Et vous verrez qu'on va parler de guérison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette révélation du père nous apporte la confiance, l'émotionnel. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu te sens protégé, sécurisé. Tu sais que tu ne vas pas prendre des coups de bâton si tu fais une bêtise. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Moi, j'ai été élevé un peu dans cette logique. Oh, si tu fais une faute, attention, Dieu va t'en mettre plein la tête. Hein. Non, c'est terrible, c'est terrible. Et quand on a compris que Dieu est un véritable papa, mais ça change tout dans nos manières de fonctionner. Mais je comprends aussi que c'est culturel aussi. Hein. C'est culturel. Bon, j'ai eu une enfance assez chaotique. Je raconte brièvement dans mon livre. Et j'ai été placé en famille d'accueil. Et entre autres, j'ai habité à Madrid, en Espagne, pour ceux qui connaissent le cœur de l'Espagne profonde. Et j'étais au lycée français de Madrid. Et le lycée français, c'était... je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais un lycée privé qui coûtait très cher. Moi, j'étais certainement le seul boursier du lycée. Il y avait des enfants de ministres, des enfants d'ambassadeurs, il y avait même des acteurs, des personnes qui sont devenues... Donc, c'est vraiment le Gotha des écoles privées. Et puis, des copains, des copines, j'étais jeune à l'époque. Et puis, il y a une copine qui était... Elle était la fille de l'ambassadeur de France. Bon. Mais moi, que ce soit la fille de l'ambassadeur de France ou la fille de n'importe qui, quand on a 15 ans... Ça nous importe peu, quoi. C'est pas un problème, ça. Et puis un jour, eh bien, on a été invités chez monsieur l'ambassadeur pour un repas. Et je me souviens, j'ai des vagues souvenirs. Et d'abord, c'était un appartement somptueux. C'était le monsieur l'ambassadeur, quoi. Donc, il y avait quelqu'un qui venait à la porte. C'était des couloirs qui étaient gigantesques. Et puis, voilà, c'est normal. C'est l'image de la France, quand même. Hein. Et puis là, c'est un autre monde. C'est la copine qui vous voit ses parents. Monsieur l'ambassadeur, et puis il y avait des invités prestigieux et tout. Et là, mais je sais pas trop, on ne sait pas trop comment réagir, quoi. Parce qu'on dit, comment, est-ce que c'est la copine du lycée, est-ce que c'est du collège, est-ce que c'est compliqué. Et c'est un peu compliqué pour nous de penser que Dieu est un Dieu majestueux, un Dieu puissant, un Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui en même temps c'est notre ami. En même temps, c'est un papa à qui on peut parler comme un enfant nous parle. C'est un peu compliqué ça de comprendre ça. Hein. Et donc, c'est compliqué de voir un Dieu qui soit à la fois puissant, majestueux, qui soit près de nous, un ami de chaque jour, avec qui on peut échanger, et qui soit aussi accessible. Aussi accessible. C'est une relation de confiance, une relation familiale. Pas une relation d'entreprise, hein, dans laquelle un patron peut profiter de ses employés. Il n'y a pas de logique ou de notion de rentabilité. Moi, je ne suis pas payé au nombre de guérisons. Et vous non plus. Par contre, je veux voir Dieu agir. Ça, c'est clair. Ça, je veux voir Dieu agir. La dernière mission en Afrique, j'étais le seul intervenant. Et en 10 jours, il y a eu 100 guérisons attestées, je veux dire. Hein, pas des petites améliorations. Je bénis Dieu. Et là, je discutais avec le pasteur qui m'invite. Il me dit, la prochaine fois, je veux 1000 guérisons. Il me dit, non, ils ont une foi. C'est de la folie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui se lancent dans l'évangélisation et qui deviennent très légalistes. Et c'est dommage, quoi, parce que voilà, si tu fais pas ceci, si tu fais pas ça. Alors, vous connaissez cette expression, hein, vous connaissez cette expression, Dieu est souverain. Vous connaissez cette expression ? Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est une expression qui permet de clore toutes les conversations, quoi. Ah, c'est génial. Je prie pour toi, tu n'as pas été guéri, ben Dieu est souverain. Non, c'est génial, hein. On prie pour une personne, la personne, non seulement elle n'est pas guérie, elle décède. Ben, Dieu est souverain, vous savez, c'est ça, Dieu est souverain, on lève les bras comme ça, on ne peut rien y faire. Ça, c'est génial, c'est une expression fourre-tout, on met tout dedans, notre incrédulité, notre manque de foi, machin, tout ça. Donc ça, c'est une manière de fonctionner, Dieu est souverain. Donc c'est mon Père Céleste, même temps, il fait ce qu'il veut. Donc s'il ne m'a pas guéri, c'est qu'il ne veut pas me guérir. Je sais que peut-être ici, il y en a qui pensent comme ça. Et c'est vrai qu'avant, j'étais un petit peu dans cette manière de penser. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est soit une fatalité. Je ne peux rien faire contre la souveraineté parce que tout est écrit d'avance. Ta vie, tout est écrit d'avance. Je ne peux rien faire. Ou alors, la souveraineté, c'est une formidable possibilité de voir agir puissamment dans les vies. Et c'est le sens puissant de l'intercession. L'intercession est capitale dans une vie d'église. Et je crois que si nous tous, on est enfants de Dieu ce matin, je crois qu'on a dû intercéder pour nous. Ça va ? Ça, c'est vraiment important. Mais je ne parle pas d'intercession dans la guérison, hein. Donc, pour moi, c'est le sens véritable de l'intercession. Demander à Dieu de changer le cours de l'histoire. Ça va ? Une fois, on m'a dit, j'aime pas ta manière de prêcher parce que tu tords le bras de Dieu. Tu tords le bras de Dieu. Une fois, en Savoie, c'était une communauté catholique et il y avait eu beaucoup de guérisons. Et j'ai reçu un mail peu de temps après et une personne m'a écrit, je résume, « J'ai pas aimé votre manière de faire. J'ai pas aimé parce que je fais venir des gens devant, je prie pour en direct. J'ai pas aimé. Mais j'avais une hernie discale. Donc le lendemain, et je me suis pas approché pour la prière, mais comme j'ai prié à distance, tout ça, mais je suis remonté sur mon cheval et je me suis aperçu que j'avais été guéri. Alors avec mon épouse, avec mon mari, ben on a changé d'avis. Et on vous bénit. Et ouais, c'est génial. Moi, j'aime bien être béni, moi. Ouais, j'aime bien être béni. J'aime bien être béni. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Dieu n'a pas dit, je vais d'abord guérir ou délivrer. Il dit, j'envoie mon fils. Et Saint Bill, vous connaissez Saint Bill ? Bill Johnson. Si tu sais des choses au sujet du Père que tu ne retrouves pas en Jésus, alors tu dois le remettre en question. Est-ce que ça va ? Ok ? Et là, je reviens. J'aime pas parler de forteresse, hein, mais là, je pense que c'est une forteresse très, très dure. Hein. Jésus n'a jamais dit « Je ne te guéris pas parce que ma volonté, c'est que tu souffres. » Quelle que soit la raison, Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Ça va ? La volonté de Dieu, c'est de tous nous guérir. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va parler de ça. Donc, comprendre Dieu comme un père ne requiert aucune qualification. C'est simple, car l'évangile est simple. Il n'y a pas plus simple. Et je ne peux pas me sentir pleinement aimé de mon Père céleste si je crois que Dieu a permis que je souffre ou que je sois malade. Ça, c'est une des bases. Souvent, je vois des chrétiens qui sont malades depuis des années. On a beau prier, on a beau jeûner, rien ne se passe. Souvent, c'est dans la tête. C'est pour ça, souvent, je dis arrêtez de prier. Arrêtez, ça ne fonctionne pas. Arrête de prier. Change ta manière de prier. Arrête de demander à Dieu d'intervenir. Interviens-toi dans le nom de Jésus. D'accord ? Arrête de parler à Dieu, de raconter ta vie. Oh Seigneur, tu sais que je suis malade depuis longtemps. Tu sais que... Non, c'est bon. Il le sait déjà. Chasse la maladie, vas-y, exerce ton autorité. Et plus tu vas l'exercer, plus ta foi va grandir. Ça va ? Est-ce que ça va jusque-là ? Ok, pas encore. Je vais prêcher encore 5 minutes et après on va mettre en pratique. Donc c'est tellement bon de se sentir en paix, en sécurité, de se sentir aimé. C'est génial, quoi. Ça donne envie de partager notre foi, de prier pour les malades. C'est pas un fardeau, mais au contraire une joie. Et on ne voit plus Dieu comme un juge qui va nous tomber dessus à chaque bêtise, toujours prêt à nous punir chaque fois qu'on fait une bêtise. Il y a un verset qui dit « Dieu châtie ses enfants comme un père ». C'est ça, comme un père. On n'a jamais vu un papa envoyer un cancer pour apprendre son fils à tourner droit. Quoi. Jamais, jamais. Ça, c'est des pensées démoniaques, ça. Pardon de le dire. C'est pas des pensées de Dieu, quoi. Après, il y a beaucoup de... Moi, énormément de questions sans réponse. Il y a des mystères. Mais dans ces mystères, moi, je veux toujours rester fidèle à ce que dit la parole de Dieu. Je ne bouge pas. Quand je prie pour une personne et que la personne n'est pas guérie et puis qu'elle décède, ça m'est arrivé en 2020, là, une amie très chère qui est décédée, et j'ai prié pour qu'elle ressuscite, et puis il ne s'est rien passé, et pourtant j'avais le feu, et pourtant tout ça. Jamais je dirais que c'était la volonté de Dieu. Jamais. Jamais. Je dis, je ne sais pas. Comme il dit Bill Johnson, il y a le placard des mystères. Je mets ça dans le placard de mystère, mais jamais je dirais que c'est la faute de Dieu. Et Lucie me dit souvent, hein, on fait parler Dieu. C'est ça ? Tiens, viens le dire, tu l'expliques mieux que moi.
Non, c'est parce que c'est vrai que souvent, comme on veut absolument avoir une réponse, alors on dit, eh ben, elle a perdu, elle a fait une fausse couche à 8 mois. Moi, j'ai entendu ça, hein, de la femme d'un pasteur, pour sa fille, hein, qui avait fait une fausse couche, dire, eh ben, peut-être que en fait, ben, il n'allait pas connaître le Seigneur, ce petit, ou... C'est des choses dures à entendre, mais je ne pouvais rien dire, elle était dans une grande souffrance. Mais alors, si on va au bout des raisonnements, on dit, eh ben alors, elle ne serait pas tombée enceinte directement, quoi. Et le besoin de trouver toujours une réponse à nos questions, on fait parler Dieu. Mais qu'est-ce qu'on le fait parler ? C'est parce que certainement Dieu, ça. C'est parce que certainement... Non, on le fait parler, mais ce n'est pas lui qui dit ces choses-là. Mais c'est parce qu'on veut absolument avoir des réponses. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Dieu accueille toutes ces personnes. C'est... Un jour, c'est un collègue de bureau. Bon, il venait juste d'arriver. Il me connaissait déjà un peu dans ma foi. Et puis, il est parti à un enterrement. Et le curé a dit que, ben voilà, que cet enfant de 10 ans était décédé, ben, que Dieu avait donné et Dieu avait repris. Donc, il rentre au bureau. Il me dit, tu vois, Lucie, je comprends que tu sois croyante et tout, mais moi, un Dieu comme ça, j'en veux pas. J'ai dit, moi non plus. J'ai dit, parce que Dieu l'a accueilli, cet enfant, c'est certain. Mais les dégâts que ça va faire dans la famille, parce qu'on en connaît encore des chrétiens qui ont perdu un proche, c'est pas vrai, ils sautent pas de joie. Et des années après, qui a perdu Christophe il y a 20 ans en arrière, la femme, elle est encore bousillée, elle s'est pas remise de son deuil. L'enfant, il est aussi en dépression. Donc, il ne faut pas faire parler Dieu. Nous, on dit que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu recueille, sans problème. Il accueille, il reprend. Mais que Dieu l'ait voulu, moi, je ne peux pas le dire. Parce que moi, mon Père, il veut le bonheur de chacun. C'est ce que je pense. Et il y a des mystères. Et ces mystères, ne faisons pas parler Dieu.
Donc, comme un papa parfait, Dieu veut le meilleur pour moi. Ça va ou pas ? Oui ou non ? Oui. Dieu le veut le meilleur pour moi et pour toi, bien sûr. C'est pour nous, je dis. Donc, je vais passer vite sur ces versets. Voilà, quelques effets de cette compréhension du Père Céleste, se sentir aimé. Vous connaissez ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit juge, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui, sauvé par lui. Comme un papa parfait, Dieu, je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois malade. C'est ça ou pas ? Que tu sois ? Tu vas dire à ton voisin, tu vas parler, et tu vas dire, bien-aimé, je souhaite, tu vas parler, vas-y, parle à ton voisin. Tu vas bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme on prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que Dieu veut le meilleur pour nous ? Oui ou non ? Bon, on va mettre en pratique ? On met en pratique ou pas ? Ça vous intéresse ou pas ? Franchement, franchement. Hier, on a prié pour